un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
C'est une dénommée Cookie, célèbre bijoutière à Anvers, capitale mondiale du diamant, qui raconte cette histoire. C'est ainsi que dans une de ses deux bijouteries, Cookie voit arriver un beau matin une femme au bras de son mari, lequel se déleste généreusement de 50 000 euros pour lui acheter un très beau solitaire. Le lendemain, voilà que la même femme revient, cette fois au bras d'un autre homme, que Cookie devine être son amant. La cliente avisée se fait alors offrir un autre solitaire très semblable et d'une valeur identique. Et le troisième jour, que fait-elle? Eh bien, elle revient voir Cookie avec l'une de ses deux bagues et lui propose de la racheter. De sorte qu'il lui reste toujours une bague identique à exhiber devant son mari et son amant, plus 50 000 euros en petite coupure. Audrey Hepburn, croqueuse de diamants sur canapé, ne l'aurait pas renié. Tout de suite dans les pieds sur terre, quelques autres histoires de bijoux, de diamants et de parures, cocasses et distinguées, qui se passent surtout en Belgique, essentiellement parce que c'est là que vit Stéphanie Thomas, qui les a recueillis pour vous.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Laure Dorchy, je suis experte en bijoux anciens et en orfèvrerie ancienne. Je suis franco-belge, mais j'ai toujours vécu à Bruxelles. Quand j'ai eu fini mes études, qui n'étaient pas des études d'histoire de l'art, c'était des études d'ingénieur commercial, spécialisée dans l'étude des prix de l'orfèvrerie, j'ai été engagée. Mon premier boulot, c'était de travailler pour un antiquaire en orfèvrerie, qui très vite s'est associé avec une dame qui vendait des bijoux anciens. Mais c'était du haut de gamme, et donc on avait un magasin boulevard de Waterloo, à Bruxelles. Il y avait à l'époque, comme il y a toujours maintenant, la foire des antiquaires de Bruxelles, c'était au Palais des Beaux-Arts. Et on sortait toujours pour cette occasion des très très beaux bijoux. Et on publiait un catalogue, enfin la foire publiait un catalogue avec l'exposant qui devait chaque fois mettre un objet en valeur. Et nous, on avait mis en valeur une broche de Cartier qui représente une tête de Sioux d'Indien, très particulière. Voilà, la foire se passe très bien, on ramène tout au magasin et un jour se présente dans le hall d'entrée de notre hôtel de maître un homme très élégant, probablement un Indien ou un Pakistanais, habillé en costume. Mais il avait un signe reconnaissable, c'est qu'il avait une mèche blanche au milieu de ses cheveux très noirs. Il nous dit dans un anglais impeccable, il nous salue, la dame qui fait l'accueil et moi-même, en nous serrant la main et en nous regardant dans les yeux et en disant qu'il avait repéré un bijou à la foire des antiquaires et qu'il aimerait bien le revoir. Très bien, pas de problème. Moi, j'avais la consigne de montrer maximum 8 bijoux à mes clients parce que c'est la consigne, parce qu'au-delà de 8, on ne peut pas voir si on dérobe quelque chose. Donc 8, c'est ce sur quoi on peut avoir vraiment l'œil. Il s'installe au bureau, je lui sors la broche d'Indien, il me dit oui, c'est bien celle-là, je l'adore, combien elle coûte, ah, je vais peut-être l'acheter, mais finalement, tant que j'y suis, est-ce que vous n'avez pas d'autres bijoux à me montrer, genre un solitaire, c'est-à-dire une bague avec un gros diamant, ou... Moi, je dis oui, effectivement, on a ça, donc je lui sors quelques bijoux, 8 maximum sur mon plateau. À la fin de tout ça, il me dit « Non, bah écoutez, en fait, finalement, je vais prendre la broche Cartier. Je suis à l'hôtel Hilton, qui était quelques maisons plus loin. Je vais chercher l'argent, parce que c'était encore la belle époque où on pouvait payer en cash. Donc, il comptait amener tout en cash. Donc, je vais chercher l'argent, emballez-moi la broche pendant ce temps-là. Je reviens la chercher d'ici une grosse heure. » Très bien. Je suis ravie, il s'en va, j'appelle mon patron. Toute fière, je lui dis, ça y est, j'ai fait une vente, la broche d'Indien, il me félicite. J'emballe la broche. À l'époque, ça devait valoir, je dirais l'équivalent de 40 000 euros aujourd'hui, quelque chose comme ça. Et je compte évidemment les autres bijoux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le huitième étant la broche que je venais d'emballer, et je remets les 7 autres bijoux dans le coffre. Heureusement avec une témoin qui est la dame qui faisait l'entrée, qui s'ennuyait, qui donc était restée avec moi pendant tout le temps, elle était restée dans le magasin avec moi. Très bien. Et puis le temps passe, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il est 5 heures de l'après-midi, le type n'est pas revenu. Et là, c'est comme si je me réveillais. Et la dame qui travaille avec moi aussi. Et on se dit, mais enfin, le diamant. Mais toutes les deux, on a vraiment le déclic et le diamant. Bah, j'ai dit, ben Liliane, on l'a remis dans le coffre. Ben oui, c'est vrai, on l'a remis dans le coffre. La broche que je venais d'emballer, elle était bien dans le paquet. Donc la broche de quartier était bien là. Bon, on va quand même vérifier. On ouvre le coffre. Plus de diamant. Le solitaire avait disparu. J'étais jeune, c'était mon premier boulot. J'avais 25 ans. Je me suis dit, mais là, on va me mettre en prison, c'est fini, personne ne va me croire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'avais aucune explication, à part que je n'avais pas été assez vigilante, ce qui me semblait hallucinant, vu que j'avais compté, j'avais regardé, Liliane était là, j'étais calme. Et donc, complètement affolée, j'appelle mon patron en disant, écoute, tu peux appeler la police, vous pouvez me mettre en tôle. Voilà, je n'ai pas d'explication, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le diamant a disparu. Elle me dit, mais enfin, Laure, t'as quand même bien regardé. Mais oui, je te jure que j'ai bien regardé. Liliane est là, elle pourra te témoigner, je te jure. On lui dit, mais écoute, on va appeler la police. De toute façon, on a des caméras, on va voir ce qui s'est passé. Calme-toi. Et j'étais dans un état pas possible. À mon avis, le diamant valait bien 80 000 euros. Et donc la police arrive et je dis, écoutez, je ne savais même plus parler tellement j'étais dépitée en disant que vous allez me prendre pour une folle, vous pouvez me mettre soit à l'asile, soit en prison, vous pouvez choisir. Mais voilà ce qui s'est passé, je n'ai pas d'explication. Et là tout de suite la police m'a dit, écoutez madame, en fait vous n'êtes pas la seule victime, ce monsieur a fait toutes les maisons importantes du boulevard de Waterloo à Bruxelles et en fait ce type avait un don d'hypnotiseur. Et donc, quand il nous avait serré la main, qu'il nous avait regardé droit dans les yeux, il nous avait en fait hypnotisé. Et en fait, il avait fait la même chose chez Wolfers, qui est un grand joaillier belge. Il était rentré chez Wolfers et là, le directeur de Wolfers à l'époque, Patrick Descamps, était spécialisé en rubis. Il avait salué le Patrick Descamps de la même façon. Il avait demandé à avoir des rubis. Mais la vendeuse n'était pas là à ce moment-là. Et donc, la vendeuse est apparue après. Et elle s'était postée derrière l'hypnotiseur. Et donc là, il a regardé les rubis. Et à un moment donné, il a dérobé un rubis, ce que M. Descamps n'avait pas vu. Et donc la vendeuse a crié, Monsieur Descamps, monsieur vient de voler un rubis. Et M. Descamps a dit, mais de quoi vous vous mêlez ? Retournez derrière, je vous ai rien demandé. Et non, monsieur est tout à fait correct. Et donc, il n'a même pas intercepté à ce moment-là l'hypnotiseur, puisqu'il était sous hypnose. Et ce n'est que quelques heures plus tard qu'il s'est réveillé. Et effectivement, un rubis avait bien été volé. Alors, la meilleure, quand même, c'était qu'il y avait une banque un peu plus loin sur le boulevard de Waterloo. Et ce même personnage s'est présenté au guichet de la banque. Il a demandé 1 million de francs belges de l'époque, ce qui correspond à 25 000 euros, je pense. Non, oui, 25 000 euros. Il dit, voilà, je voudrais 1 million de francs belges, mais pas de souci, monsieur, je vais vous les donner. Et le guichetier lui a gentiment donné 1 million de francs belges sans sourciller. Et puis l'hypnotiseur est parti. Et puis quelques heures plus tard, le guichetier a dû dire à sa direction qu'il avait donné 25 000 euros à une personne qu'il ne connaissait pas. Donc effectivement, on était une bande d'hypnotisés assez perplexes. 6 mois plus tard, je devais recevoir des gens chez moi. Et pendant que j'étais en train de faire à manger, la police judiciaire m'a appelée en disant, écoutez, voilà, on vient d'arrêter un suspect, il faut que vous veniez tout de suite. Donc j'ai dû planter tous mes invités et j'ai passé ma soirée au commissariat. Et de fait, c'était bien le même homme. C'était un réseau, ils étaient plusieurs hypnotiseurs et ils sévissaient beaucoup en Angleterre. Donc il faut savoir qu'un diamant, c'est pratiquement irrécupérable. Hein. Ils le retaillent. Comment faire la différence entre un diamant et un autre? S'il est retaillé, vous ne pouvez pas voir que c'est le même. Donc, non. Si ça avait été la broche, c'est pour ça qu'il n'a pas pris la broche Cartier, en fait. Hein. C'est numéroté, on peut la retracer. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, ils prennent des bijoux qui sont vite écoulables. Enfin, la moralité de l'histoire, c'est que je préfère de loin que ça se passe dans la douceur qu'avec une Kalachnikov. Mais ça reste quand même toujours surprenant.
Je m'appelle Pamela, j'ai bientôt 39 ans, j'habite Bruxelles, je suis indépendante, je travaille dans l'alimentaire pour des industriels hollandais. Et voilà, le bijou c'est un peu une maladie, c'est ce qui termine la tenue, c'est ce qui fait chic quand on est décontracté mais qu'on veut quand même avoir l'air habillé. Ça a toujours été dans la famille, ça passe de mère en fille. J'ai une maman qui adore les bijoux. Donc depuis que je suis toute petite, c'était le jeu. J'adorais aller dans sa boîte à bijoux. Et je connais la plupart des pierres semi-précieuses, précieuses. Personnellement, j'ai un faible pour les diamants noirs. Il y en a de toutes les couleurs, hein, les diamants. Et puis, il y a un autre point qui joue chez moi, et c'est une des raisons pour laquelle j'aime les vraies pierres, c'est que je ne suis pas quelqu'un de très délicat et que je ne vais pas enlever ma bague pour faire la vaisselle, pour nettoyer la maison, pour changer les enfants. Et donc, l'avantage des pierres et de l'or, c'est que ça supporte le javel, ça supporte le vinaigre, ça supporte quasiment tout. Donc, du moment où le montage est robuste, je dors limite avec parfois. Je ne suis pas quelqu'un qui va beaucoup changer et faire très attention. Mais je pense que quasiment toutes les pas, même les bijoux. Après, je pense qu'il y a une, dans l'éducation, la faculté de se dire on met autant d'argent ou pas dedans. J'ai 2-3 copines qui, elles, pas du tout. Mais c'est parce qu'elles estiment que c'est pas, que c'est de l'argent bêtement perdu. Alors que moi, je le vois pas ça comme ça, puisque je crois que ça garde sa valeur. Mais pour les autres, j'en ai 2-3 qui sont comme moi. On pourrait pendant des heures aller voir des bijouteries, se dire « Ah, je ferais bien ça », et aller essayer pour le plaisir et rêver en se disant « Bon, ben, pour mes 40 ans, pour mes 45 ans » et faire des projets comme ça. Ça reste quand même avec... Oui, on se montre nos bijoux quand on les transforme, quand on change les couleurs. On est plusieurs à avoir ce genre de plaisir. Alors, il y a un coffre à la banque pour bêtement les périodes Noël, Nouvel An, les périodes où on sait qu'il y a des vols. Quand on part en vacances, je laisse pas traîner les bijoux ici. Et puis, comme on a une grande maison, il y a des périodes où je me dis, si par malchance, je devrais me faire cambrioler maintenant, que tout ne soit pas pris et j'éparpille dans toute la maison, dans des millions de récipients, de cachettes différentes. Je sépare les boucles d'oreilles, les pendentifs, vraiment, c'est moi qui ai un problème psychologique, je crois, à ce niveau-là. C'est des crises que j'ai par moment. Et puis, je remets tout dans la même boîte parce qu'au quotidien, j'aime quand même changer au niveau des bracelets, des trucs comme ça. Mais il y a des périodes, du coup, où j'oublie où j'ai mis. Et je mets parfois des semaines à retrouver. Et du coup, au moment où je me rends compte qu'il en manque un, c'est la crise de nerfs, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Et bon, on a juste une mauvaise surprise, c'est qu'à un moment, on pensait que j'avais caché, que j'avais oublié, mais on s'est rendu compte que c'est l'ancienne babysitter qui avait piqué. Donc, il y a pas mal de bijoux qui ont disparu en 2 ans, où moi, je pensais que c'était juste égaré quelque part, mais ce n'était pas le cas. Donc là, ça a été la mauvaise surprise, évidemment. Au niveau, on va dire, de l'assurance de la maison, j'ai fait assurer jusqu'à 50 000 euros. Mais ça veut dire que moi, pour ce prix-là, je peux le faire refaire chez les gens que je connais. Donc, sur base de toutes les photos que j'ai de mes bijoux, si un jour je dois tout me faire voler, pour ce prix-là, je peux faire refaire. Maintenant, ce serait impayable dans une boutique. Moi, je ne vais jamais aller investir pour avoir, par exemple, une pureté beaucoup plus importante parce qu'elle ne se voit pas à l'œil nu. Par contre, je regarde ça quand même comme un investissement. Au même titre qu'on va acheter un appartement, qu'on va le rénover avec des beaux matériaux, pas beaux matériaux. Donc, il y a un côté investissement parce que j'envisage de le revendre à un moment et donc ne pas avoir perdu bêtement de l'argent. J'ai une tendance à être plutôt raisonnable et de par la famille, j'ai accès à des adresses à Anvers qui me coûtent moins cher. Donc, je n'achète pas en boutique. Ça, c'est une réalité. Acheter ne fût-ce qu'une pierre dans une boutique, elle me coûterait 10 000 euros, le solitaire de ma grand-mère, rien que la pierre me coûterait une fortune dans un magasin. Donc moi, je compte sur le fait d'être à la source et de pouvoir faire refaire chez le fabricant. Donc ça change très fort le calcul aussi. Et quand vous achetez une marque, alors oui, il y en a certaines qui garantissent une certaine qualité de pierre, mais vous ne payez pas la valeur de la pierre même, vous payez clairement la marque. Et ça, je trouve, pour moi, ça n'a pas de valeur, en fait. Je pense que n'importe quel diamantaire ou n'importe quelle personne experte pourra vous dire, si vous achetez un bijou de marque et que vous faites expertiser uniquement la pierre qui est au centre, il n'y aura jamais de corrélation sans la marque. Parce que je travaille dans l'alimentaire, il faut savoir que je ne peux pas donner, évidemment, le nom des enseignes, mais on vend la même production avec le même pot, la même qualité, à des revendeurs différents, chacun met son étiquette dessus et ça va du simple au double en fonction de l'endroit où vous l'achetez, parfois même le triple. Et ça se vaut pour toutes les productions, que ce soit du bijou, du vêtement, de la maroquinerie. Ou une fois que vous êtes rentré dans le monde de la production, ben, les consommateurs sont un peu pris pour des idiots généralement et faire ses courses ou que ce soit, si on n'apprend pas à lire l'étiquette qu'il y a derrière, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est pareil pour les bijoux, tout simplement.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Sonia, je suis créatrice de bijoux et je travaille avec un collègue qui, lui, est à la fabrication. Et j'ai pignon sur rue depuis 31 ans à Bruxelles. Donc j'ai une amie qui adore les bijoux et qui est cliente aussi, qui vient me rendre visite. C'était au mois de février. Et puis à 5 heures, elle rentre et moi je sors en même temps qu'elle parce que je dois changer le disque bleu de ma voiture parce que ça fait 2 heures que je stationne au même endroit. Il faisait déjà sombre, mais c'était pas encore l'heure de la fermeture. En sortant, je vois un homme avec une casquette de marque qui m'accoste devant ma bijouterie et qui me dit « Oh, je peux rentrer, j'aime bien, etc. » Enfin bref. Alors, je pense que quand on a un côté un peu bling-bling, on n'est pas attiré par les bijoux que moi je fais en tout cas. J'ai pas trop envie de le laisser rentrer, mais je me dis c'est pas très sympa. Je vois bien qu'il n'a pas le type du quartier, mais bon, pas pour autant qu'il faut être fermé. Voilà. La personne rentre derrière moi et je sens un malaise tout de suite. Mais je me suis forcée un peu à le laisser rentrer. Et il me pose des questions et je vois bien qu'il ne discerne pas ce qui est vermeil, ce qui est or. Je vois bien qu'il est un peu en repérage, en fait, je le sens tout de suite. Mais voilà, je suis restée correcte, j'ai répondu à toutes ses questions et j'ai un ouf de soulagement quand il est parti. Le lendemain, j'en fais part à Philippe, à mon collègue. Je lui dis qu'une personne suspecte, à mes yeux, est venue et que j'ai pas aimé, j'étais seule, il faisait sombre, il faisait nuit et voilà, ça m'a pas mis en sécurité. Donc, à partir de là, les jours passent, on se détend et une semaine, jour pour jour après, je savais que Philippe était là à l'atelier en bas avec son chien. Je ne sais pas comment, est-ce que la porte était un peu ouverte ou un voisin est sorti ou je ne sais pas comment ça s'est passé. Et là, cette personne a fait irruption, mais tout de suite. En 2-3 mouvements, elle était là face à moi, tout près. Et là, ça va très vite, il vous braque un arme, voilà. Et voilà, et tout de suite, il vous dit « couche-toi et tais-toi, couche-toi ». Je me dis « mais merde, je savais qu'il allait revenir, comment il est rentré, enfin bref ». Et donc, je n'ai qu'une seule pensée, c'est le communiquer à Philippe, puisqu'on en avait déjà parlé. Et donc, je me couche par terre et je fais tous les signaux pour le communiquer à Philippe. Nous avons des codes, voilà. Lorsque, c'est comme du morse. Si j'ai un code, ça peut vouloir dire alerte, ou si j'ai un autre code, ça peut vouloir dire, je ne sais pas, bien dire à la personne qu'on ne fait pas ce genre de travail, voilà. J'envoie les signaux à Philippe et le temps semble long et je m'attends à ce que le chien monte en fait. Mais ça ne s'est pas passé, non. Contre toute attente, Philippe est rentré dans la pièce, mais sauf que quand il est rentré dans la pièce, il était sans le chien mais il était avec un katana, une épée japonaise de combat, voilà.
J'ai entendu ma collègue, j'étais dans l'atelier. Donc en poussant la porte, j'ai vu ma collègue allongée derrière le comptoir. En tournant la tête sur la gauche, j'ai vu qu'il y avait un grand bonhomme de dos qui était occupé de chipoter dans la vitrine. Dès qu'il a entendu la porte s'ouvrir, il s'est précipité sur moi. Donc en 2 pas, il était sur moi avec son arme braquée sur ma tempe en me disant « je vais te tuer, je vais te tuer ». À ça, moi je lui ai proposé mon katana. Et on était plus dans un jeu style pierre-papier-ciseau. J'ai un revolver, moi j'ai un katana, qu'est-ce que t'as de mieux? Il m'a tapé dessus. Et moi je l'ai un peu coupé, et puis voilà. Ça c'est un petit peu envenimé, on s'est un petit peu, oui, une petite rixe, une petite bataille. Il a tapé avec la crosse de son revolver à plusieurs reprises sur mon crâne. et à la tempe. Et moi, je l'ai baissé avec le katana, coupé le sac avec les bijoux, dans la confusion, hein, sans être conscient précisément de ce qui se passait. Il est parti en courant. Sans le sac, le sac était coupé, le sac était par terre. Alors le premier sentiment, rapidement après, c'est avec les blessures sur le visage, dues à la crosse de son revolver, si ça perd beaucoup de sang, évidemment. Et le sentiment, c'est de se dire, bah, j'aurais mieux fait de rester en bas, plutôt que de me faire défoncer la tronche et saigner partout. Et petit à petit, reprendre ses esprits et voir que, ah, tiens, bah, là par terre, il y a le sac. Ah oui, dans le sac, il y a des bijoux qui dépassent. Ah bah ok, j'ai pris des coups sur le visage, je saigne, les bijoux sont pas partis, ma collègue n'est pas blessée, et puis voilà, l'ambulance, les urgences, des sutures, et puis voilà, la police scientifique plus tard dans la soirée pour les empreintes.
Ah bah sur le coup, moi j'avais peur, bien sûr la vue du sang ça fait peur, j'avais peur pour Philippe. Tous les gens du quartier sont venus le féliciter et on nous a suggéré un tas de choses marrantes, genre de nommer la bijouterie au katana doré ou préparer d'autres surprises pour le prochain. Et puis oui, voilà, oui, ça a été en quelque sorte un héros. Ouais. Donc ça permet de pas se sentir victime, parce que se sentir victime, ça peut durer longtemps. Ça peut, ouais. On en est sorti victorieux.
Je m'appelle Nour, j'ai 44 ans, je suis algérienne. Je suis arrivée en France dans les années 90. On a fui l'Algérie à cause du terrorisme. On a été peut-être les premiers, et la vague d'immigration a été assez grande ensuite. Mon père est mort en 88. On ne saura pas vraiment dans quelles conditions. Ma mère était militante, elle faisait partie du PAX. C'était le parti d'avant-garde socialiste. Mais on habitait pas à Alger à ce moment-là. Les deux étaient universitaires, démocrates. À ce moment-là, on a quitté cette ville pour Alger. Elle s'est dit, voilà, on va être un peu diluée dans la masse. Et le terrorisme, assez rapidement, a submergé nos vies. Je m'en souviens très bien. Donc il a fallu fuir très vite, avec une valise, rien d'autre. Ma mère et ma sœur, chacune une valise. Arrivée avec un visa d'une semaine pour les vacances scolaires, c'était la Toussaint, 3 novembre 93. Il faisait très froid. Alors dans notre valise, il y avait nos vêtements et puis quelques bijoux, quelques bagues, quelques bracelets, tout ce qui reste. Dans notre culture et dans ma famille, les bijoux ont une place assez importante. On scrute un peu les bijoux des femmes. Voilà. Donc alors c'est sûr que ça dit quelque chose sur le milieu social. Ça dit aussi quelque chose sur la place de la femme aux yeux de son mari, de sa famille, de sa belle-famille. Voilà. Ça dit beaucoup de choses. Ça a été une façon pour mon grand-père et mon arrière-grand-père de valoriser les femmes, de dire, voilà, vous comptez. Et ma ville natale est Constantine. Et donc, les grandes familles de Constantine, il y avait une tradition autour du bijou, avec des très jolies pièces. Il y a des bijoux qu'on ne peut pas porter aujourd'hui. Il y avait des grands colliers faits d'ambre et d'un médaillon central assez imposant qu'on portait avec les robes qu'on appelle toujours d'ailleurs Qatrif al-Fergani, des robes en velours, très lourds, brodés au fil d'or sublime, et donc ça s'accompagnait de grosses ceintures avec des louis d'or, montées comme ça avec des louis d'or et une jolie boucle, et ce collier d'ambre. Et j'étais la première des petits-enfants, donc j'avais ce privilège. Mon grand-père m'aimait beaucoup, et j'avais beaucoup de bijoux, beaucoup de cadeaux. Mon arrière-grand-père et mon grand-père étaient des fans de bijoux, qui sillonnaient le monde et ils ramenaient des bijoux qu'ils offraient aux filles, aux belles filles. Et donc il y avait une sorte de compétition. Il y avait des pierres précieuses, il y avait des bracelets incroyables ramenés de leur voyage, essentiellement en Asie, beaucoup en Inde. Enfin, ça paraît idiot comme ça, mais il y a une forme d'attachement à ces bijoux, parce que c'est notre histoire, c'est la famille, ça s'est transmis de génération en génération. Et puis finalement, et puis ça rassure aussi, parce qu'on se dit, voilà, si on cap vraiment de coup dur, on a toujours ces bijoux, même si c'est comme un collectionneur d'art, il n'a jamais envie de se séparer de ses pièces. Il y a un attachement matériel, on va dire, c'est pas très important, c'est que du matériel. Mais bon, on a perdu des choses tellement plus importantes. Mais bon, on a vendu quelques bijoux, dont une pièce assez imposante et alors pour le coup compliquée à porter. Ça s'appelait le khalkhal. Donc c'était de l'or massif, des très gros bracelets qu'on mettait à la cheville. Mais sinon, on évite, on essaye de sauvegarder le patrimoine absolument et de transmettre.
I bust the windows off your car and no it didn't mend my broken heart. I probably always have these ugly scars, but right now I don't care about that part. I bust the windows out your car after I saw you laying next to her. I didn't wanna, but I took my turn. I'm glad I did it, 'cause you had to learn.
C'était Diamant sur canapé, un reportage de Stéphanie Thomas réalisé par Yael Mandelbaum et mixé par Élise Le. Merci à Pamela, à Noura, à Sonia, à Laura, à Vincent et à Aline. C'est Jeanne Copet, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Justine Calais, notre stagiaire.
But I'm glad you see what happens when you see you can't just play with people's feelings. Tell them you love them and don't mean it. You probably say that it was juvenile, but I think that I deserve to smile. I bust the windows out your car. You know I did it, 'cause I left my mark. Wrote my initial with a crowbar, and then I drove off into the dark. I bust the windows out your car. You should feel lucky, that is all I did. After 5 whole years of this bull, gave you all of me and you play with it. I must admit it helped a little bit to think of how you'd feel when you saw it. I didn't know that I had that much strength, but I'm glad you see what happens when you see you can just play with people's feelings.